Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
La violence et la haine basée sur le fait religieux affecteraient près de 3/4 de la population de notre planète aujourd'hui. Comment peut-on renverser cette tendance? Quel rôle devraient jouer les leaders religieux pour éviter les crimes d'atrocité? Autant de questions sur lesquelles revient Adama Dieng, le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide, rencontré récemment à la sortie d'une table ronde sur ce sujet au siège de l'ONU à New York. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'Escale. Christina Silvero au micro.
Toutes les régions du monde qui sont affectées. Le Pew Research Center a sorti récemment un rapport. J'avoue d'ailleurs que j'ai trouvé énorme ces statistiques, mais cela couvre non seulement les violences qui découlent des phénomènes terroristes et autres, mais également des violences tout simplement aussi verbales, le port du voile, toutes ces questions aux alentours et qui montrent justement les difficultés, sinon je dirais plutôt l'ignorance qui est prévaut entre les différentes communautés de par le monde.
Alors, comment expliquez-vous cette tendance quand on sait que dans toutes les religions, on prêche l'entente et le respect de l'autre ?
Écoutez, il ne s'agit pas des religions, mais il s'agit plutôt de la manipulation du fait religieux. Et là, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui, au nom d'intérêts personnels ou d'intérêts politiques, utilisent le phénomène religieux. Nous l'avons constaté tout récemment en République centrafricaine, où des groupes armés ont manipulé le fait religieux jusqu'à amener ce qui aujourd'hui, si on ne fait pas attention, pourrait devenir un conflit interreligieux. Mais cela ne se limite pas seulement à l'Afrique. On a vu dans d'autres contrées du monde une montée des tensions religieuses. Je vous donnerai par exemple l'exemple du Myanmar, où on a vu des bouddhistes, même un moine, pratiquer la violence, lorsque l'on sait que le bouddhisme est une religion qui était essentiellement fondée sur la non-violence. Donc c'est dire que nous vivons aujourd'hui dans un monde où il est temps que l'ensemble des leaders religieux se mobilisent pour faire front commun et lutter justement contre toutes les formes de violence, toutes les formes d'incitation à la violence, à la criminalité.
Alors justement, comment peut-on inverser cette réalité et quel rôle peuvent jouer ces leaders religieux concrètement ?
Nous avons vu récemment, dans le cadre des manifestations qui ont eu cours en Ukraine, des leaders religieux se positionner entre les manifestants et les forces de l'ordre. C'était un moment très fort. C'était pour moi un symbole. C'est dire que les religieux peuvent et doivent jouer ce rôle de prévention des atrocités criminelles. Ce n'est pas nouveau. Pendant l'Holocauste du peuple juif en Europe, je puis vous donner l'exemple de religieux qui s'étaient allongés le long des rails du chemin de fer et qui ont dit au gouvernement bulgare de l'époque, « Faites passer le train sur nos corps, mais jamais nous n'accepterons que ces Juifs soient déportés. » Et c'est ça. Il faut aujourd'hui de plus en plus que l'ensemble des leaders religieux comprennent que le message religieux, que ce soit islamique, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, qu'il soit bouddhiste, est le même. C'est un message d'amour, c'est un message de paix, c'est un message de coexistence.
En attendant ce jour, le rêve d'éterniser la paix, citoyen du monde, ne sera qu'une illusion désespérée.
Votre bureau mène-t-il des efforts ou des programmes justement en ce sens?
Nous avons récemment accordé un soutien à la Tanzanie parce qu'il y avait des tensions entre les communautés musulmanes et chrétiennes. Et nous avons donc pu appuyer le Comité national tanzanien pour la prévention du génocide, des crimes contre l'humanité et de toutes les formes de discrimination pour l'organisation de forums de paix dans cette province. Et il faut là saluer le courage des autorités tanzaniennes qui, dès qu'elles ont vu les premiers signes, ont accepté de jouer la transparence. Parce qu'il ne faut pas éluder les problèmes. Lorsque les problèmes se posent, il faut les aborder avec intelligence et prendre les mesures qui s'imposent. Et c'est dans ce cadre que nous avons eu à les accompagner. Nous allons également, très très prochainement, accompagner les efforts des leaders religieux en République centrafricaine, en passant par la Commission nationale des droits de l'homme de la République centrafricaine pour l'organisation de forums de la paix dans un certain nombre de provinces, notamment ces provinces où les communautés sont vraiment arrivées à un stade où il faut rapidement engager un travail de dialogue, un travail de réconciliation.
C'est des forums, en fait, au niveau très local.
Tout à fait. Ce sont des forums à la base, parce que c'est au niveau des communautés à la base qu'il faut d'abord travailler. Mais dans le cadre de la Centrafrique, nous allons bien entendu culminer l'ensemble de ces forums à la base par un forum national. Et à l'occasion de ce forum national, nous tirerons tous les enseignements et vraisemblablement, ce sera aussi l'occasion pour la Centrafrique de lancer son comité national pour la prévention du génocide, des crimes contre l'humanité et de toutes les formes de discrimination, à l'instar des autres pays des Grands Lacs qui ont déjà mis en place cette structure.
Un corps brûlé en pleine rue, à Bangui, dans un quartier où des civils chrétiens sont arrivés en grand nombre.
Au kilomètre 5, l'ambiance est électrique. Les musulmans du quartier ont sorti les armes traditionnelles, machettes, arcs.
Les soldats de la force internationale ne parviennent pas à empêcher ce qu'elles présentent comme un nettoyage ethnique dans la population.
Et alors,
musulmane.
Par rapport à la Centrafrique, justement, comment est-ce que, arrivé à ce niveau communautaire, on peut tenir ce genre de forum et réconcilier le fait que ces voix porteuses de divisions et de messages de haine interconfessionnelle soient aussi parmi la communauté?
Ben écoutez, vous savez, il n'est pas impossible de pardonner, il n'est pas impossible de réconcilier. Si vous prenez l'exemple du Rwanda, où on a enregistré près de 800 000 Tutsis et des Hutus modérés qui ont été tués par les génocidaires, nous avons vu les procès des Gacaca, nous avons vu des familles Tutsis pardonner aux auteurs de ces crimes. Et c'est pourquoi je pense que dans le cadre de la République centrafricaine, où les musulmans sont à la vérité une minorité, ils représentent peut-être 10%, il est possible, quand on voit l'image de l'archevêque de Bangui, l'image du grand imam de Bangui, que j'ai eu le plaisir de rencontrer tous les deux, et qui tous les deux mobilisent justement l'attention des communautés respectives musulmanes et chrétiennes, pour qu'elle retrouve justement cette base qui a été le ciment même de leur harmonie pendant des décennies. Donc, je reste confiant qu'il est possible aujourd'hui, si on s'y met déjà, de réconcilier ces populations. Parce qu'à la vérité, ces populations ont été tout simplement manipulées par des groupes armés qui ont manipulé, comme je disais, le fait religieux. Mais sinon, on ne peut pas parler véritablement d'un conflit religieux.
Historiquement, elles cohabitaient et elles s'intermariaient. Elles ont quand même plusieurs décennies d'histoire commune.
Vous avez parfaitement raison. Ce qui est arrivé, c'est que nous avons connu dans ce pays des leaders politiques qui, pour la plupart d'ailleurs, étaient arrivés par le biais de coups d'État. La Centrafrique, ne l'oubliez pas, n'a connu qu'une seule élection démocratique. C'était au moment où Patassé avait été élu. Et à chaque fois qu'un leader arrivait, le plus souvent, c'était essentiellement une garde présidentielle appartenant à sa tribu qui se retrouvait aux affaires. la question de l'accès aux emplois publics se poser. Et c'est la raison pour laquelle mon bureau insiste partout sur l'importance de la gestion constructive de la diversité. Nous l'oublions pas, nous vivons dans des sociétés qui sont plurielles et il est essentiel à partir de cet instant-là de faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination, que tel groupe ethnique, que tel groupe religieux ne se sente pas écarté quand il s'agit de l'accès aux emplois publics, l'accès à la terre, l'accès aux ressources, l'accès à la protection. Donc il faut tout simplement que tout un chacun dans les États, qui sont tous des États divers, puisse jouir de ses droits de l'homme. Droits politiques et civils, droits économiques et sociaux. Donc c'est au nom d'une gestion constructive de la diversité que nous réussirons à bâtir des États stables, des États de droit, et c'est d'où toute l'importance aussi du respect des principes de la rule of law, la primauté du droit.
Par rapport à la réunion d'aujourd'hui, il y a eu un appel à un plan d'action vers la fermeture de la réunion. Alors, est-ce qu'il y a un plan d'action justement qui puisse apporter une structure pour faciliter l'implication des leaders religieux ?
Eh bien, nous espérons que dans le courant du troisième trimestre de cette année 2014, mon bureau va organiser un forum à l'échelle planétaire où nous regrouperons des leaders de toutes les religions, des leaders spirituels qui vont ensemble réfléchir, mais surtout qui vont ensemble renouveler l'engagement qui est de prévenir toute forme d'atrocité criminelle. Vous l'aviez dit au tout début, toutes les religions, au fond, font la promotion de l'amour, la promotion de la paix, la promotion d'une coexistence pacifique. Et je rappelle souvent que si l'islam, je suis musulman, a prospéré, c'est qu'il y a eu aussi, au moment où le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a quitté la Mecque pour Yathrib. Yathrib, c'était le nom juif de l'actuelle cité de Médine en Arabie Saoudite. Eh bien, il y a trouvé des rabbins qui l'ont accueilli. Et ses compagnons qui se sont retrouvés en Abyssinie, ils ont été également accueillis par l'empereur d'Abyssinie, qui était un chrétien. Voyez-vous donc, je retrouve la démarche de mon collègue, le haut-commissaire pour les réfugiés, Antonio Guterres. Toutes ces religions ont encouragé justement la protection du réfugié. Et donc, si c'est cela, il faut faire en sorte que le message, qui est le message divin, il est unique. Dieu a envoyé des prophètes, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, ce sont tous des envoyés de Dieu. Donc, ce message est un message unique, cohérent. Donc, ce qu'il faut, c'est retourner aux sources, faire en sorte que les hommes aujourd'hui ne manipulent pas comme ils sont en train de le faire, le fait religieux, en conduisant justement des hommes et des femmes qui sont à la recherche de ce besoin vital. Parce que de plus en plus, si on voit des groupes extrémistes qui recrutent parmi les jeunes, c'est que ces derniers sont aujourd'hui abandonnés. Le sous-emploi, n'ont pas accès à la santé, d'où la nécessité de tout mettre en œuvre pour le succès des objectifs du millénaire pour le développement, faire en sorte que la pauvreté soit éradiquée, et cela est possible s'il y a une volonté des États de faire en sorte que nous soyons dans un monde où l'égalité ne sera plus un simple slogan, mais que l'égalité sera une réalité. Mais pour qu'il y ait cette égalité, il faudra aussi nécessairement la fraternité, la solidarité, d'où l'importance de ce que nous appelons les droits de solidarité, les droits de la troisième génération, droit au développement, droit à la paix, droit à un environnement sain.
Et c'est avec Adama Dieng que se referme cette édition d'Escale, présentée cette semaine par Christina Silvero, avec l'assistance de Rebecca Muzio. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Je vous rappelle que vous pouvez écouter Escale, mais aussi le journal de la Radio des Nations Unies par podcast ou sur Internet en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.